J'avais une paroissienne qui disait toujours « C'est dommage que Madame Dupont ou Monsieur Durand ne soient pas là ce matin, parce que ce texte, c'était vraiment pour eux ou pour elle. » Ce texte que nous avons entendu, il y a ceux qui l'apprécient, et bien c'est ceux qui n'aiment pas les riches, car ils ont l'impression qu'ils en prennent pour leur grade et que justice est faite aux pauvres. Et pourtant, si ce matin, on entendait ce texte, non pas pour les autres, mais pour chacun de nous. Car il ne s'agit pas d'une petite histoire, ni d'une leçon de morale. Pour moi, ce texte est une icône, une image de la figure du Christ, de sa passion, et donc de la vie de tout disciple, de celui ou celle qui veut le suivre. Il y a donc une rencontre silencieuse entre Jésus et une pauvre veuve. Et autour, comme public, une foule, des scribes, les disciples, et puis nous ce matin. Une seule personne parle, Jésus. C'est un texte tout en contraste. Il y a du bruit, il y a du silence, il y a riche, il y a pauvre, il y a beaucoup, il y a manque, il y a veuve, il y a ceux qui savent, pour se faire voir ou sans se faire voir. Au fond, on pourrait dire que cette histoire ne retiendrait pas, en tout cas aujourd'hui, la une des journaux. Et c'est peut-être justement dans l'absence d'importance aux yeux des humains qu'est le nœud du récit. Même les disciples ne savent pas voir. La veuve apporte sa contribution, son don, quelques centimes. Parfaitement inutile d'ailleurs au temple, au prêtre. Alors pourquoi ? Est-ce une condamnation des riches ? Une apologie de la pauvreté ? Non, condamnation des riches, non. Une apologie de la pauvreté, non plus. La pauvreté reste une épreuve, surtout quand elle est le résultat de l'injustice des humains. Les riches donnent de leur superflu. La veuve, elle, donne tout ce qu'elle possède. Tous ont donné de leur superflu, c'est-à-dire, en fait, et on les comprend, ils ont gardé pour la sécurité de demain. D'ailleurs, pas plus qu'hier qu'aujourd'hui, on ne sait de quoi sera fait demain. Alors, il faut bien garder quelques réserves. Mais quand on garde, cela peut vouloir dire que l'on se dispense d'avoir recours à Dieu. Ou en d'autres termes, on pourrait dire aussi que donner au temple de l'argent, ça prend la place de Dieu. Ou encore plutôt du contrat d'assurance avec l'existence, c'est-à-dire on prélève une part pour cette assurance ultime dont Dieu est l'agent et au cas où, on ne sait jamais. Il y a un peu de l'ordre de l'échange, je dirais, du commerce ou du calcul, ou du relatif en tout cas, dans cette façon de donner. En donnant de leur superflu, ils affirment qu'ils ont un autre Dieu que Dieu, puisqu'ils ne dépendent pas totalement de lui, et qu'ils ont une autre espérance que l'espérance. La veuve, elle a tiré son don, c'est le mot qui est dit, elle a tiré son don de son manque, de ses biens. En fait, elle ne retient rien, c'est ça. Elle donne tout. Et en donnant tout, elle confesse Dieu comme Dieu à qui elle appartient. Elle jette tout ce qu'elle avait pour vivre, sa vie. le don sans réserve. En donnant une seule petite pièce et en en gardant une, elle aurait déjà beaucoup donné en tant que veuve. Mais en donnant tout, c'est le signe de sa totale liberté. Elle n'a pas peur de demain. Elle a une confiance absolue. Après cet épisode, Jésus quitte le temple et n'y revient plus. Il est en marche vers sa passion, sa mort, le don de sa vie. Alors cette veuve, c'est bien l'image du don total, de la confiance absolue dans le Père, de la plus totale liberté comme Jésus. C'est le signe d'un nouveau culte fait d'abandon et de don total. Il y a bien une religion qui n'est dictée ni par l'intérêt, ni par la peur, mais par l'amour seul. Il y a une foi qui ne s'appuie pas sur l'attente de la récompense, mais qui regarde à la seule promesse donnée par le Père. Alors, c'est vrai que face à cette histoire, on peut être découragé, écrasé, se dire que c'est impossible, que les temps ont changé et qu'aujourd'hui c'est différent. Jamais nous ne pourrons donner comme cette veuve. C'est vrai si nous restons sur le registre de l'exploit, de la loi, de l'exigence, sans voir et connaître cette extraordinaire liberté de la veuve, cette extraordinaire confiance. Le don, c'est la langue que Dieu parle et l'homme en balbutie quelques mots. Donner, c'est le manteau qu'on laisse en plus de la tunique. C'est l'autre joue qu'on tend lorsqu'on nous fait injure. C'est le surcroît qu'on donne sans qu'il soit demandé. Déjà nous gagne l'inquiétude de l'impossible, mais quelqu'un alors nous prend sur ses épaules pour franchir cet abîme, car à Dieu, tout est possible. Luati Beirao a écrit « Aucune personne ne peut se sentir libre en sachant qu'il y a quelque part d'autres personnes emprisonnées pour avoir rêvé d'un monde plus juste. » Ce chanteur angolais avait réuni chez lui des amis pour réfléchir à la non-violence, à des moyens pacifiques de protestation dans son pays. Quelques heures plus tard, ils sont tous arrêtés et accusés de tentative de coup d'État. Il paye cher le prix de son combat pour la liberté et pour la justice. C'est pour lui, ce mois-ci, que l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture nous demande d'écrire et de prier. Je fais partie de ce mouvement œcuménique depuis sa naissance et j'espère qu'ici en Corrèze, moi qui ne suis pas corrézienne, ici à Brive, des chrétiens s'y engageront. Voilà, je me tiens à votre disposition à la sortie de la messe. Vous pouvez prendre ce papier, il y a tout ce qu'il faut comme renseignement. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie la communauté franciscaine de m'avoir accueillie ce matin.